France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Déjà, il y avait cette odeur de pisse dès l'entrée. Le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, hélas, ne nous apprend pas que certains EHPAD sont, faute de soins, faute de personnel, des lieux terrifiants dont on repart en pleurant quand on a été contraint d'y laisser sa mère, son père ou un grand-oncle parce qu'on n'a pas toujours le choix. Certains EHPAD. Mais ce qui est dénoncé là va plus loin parce qu'on parle de lieux privés, d'établissements chers. Ce qui est dénoncé, c'est la logique comptable de rentabilité qui prime sur le bien-être des résidents. Le groupe Orpea se défend, il récuse, il dénonce, il a le droit, il est aussi convoqué par le gouvernement. Mais ce livre et tout ce qui va suivre permet peut-être de faire le grand inventaire dont le secteur a besoin. Il provoque aussi l'indispensable réflexion que toute notre société doit avoir sur la prise en charge et la dépendance du très grand âge. Qui finance quoi et comment? Que doivent-ils dire à leurs actionnaires? Ces énormes groupes, comment sont-ils contrôlés et par qui? Quelque chose est en route puisqu'il est fortement question aussi de permettre aux députés de visiter les EHPAD privés aussi, comme ils ont le droit de le faire dans les prisons, les centres de rétention ou les centres d'éducation fermés. Imaginez quand même la comparaison. On entend les appels aussi à créer un organisme indépendant dont le travail serait précisément de visiter, de scruter tous ces établissements-là. L'autre question, celle de la réflexion sur le grand âge, on n'en fera pas l'économie, elle nous renvoie aussi à une loi grand âge qui, elle, est passée à la trappe. Les EHPAD privés, c'est 20% des lits en France, c'est beaucoup ceux qui disent qu'il faut les fermer. À ceux qui disent cela, la réponse depuis 24 heures, c'est plutôt l'exact inverse. Ouvrez les EHPAD, et c'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous, Caroline. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute, Caroline.
Bonsoir. Ben moi, j'ai appelé pour témoigner de ce qui s'est passé avec maman. Je vais essayer d'être brève. 3 400 € par mois. Des soins qui étaient prescrits qui n'ont pas été donnés. Elle avait une maladie rare et orpheline. Lorsqu'elle est décédée, plus exactement 2 jours avant son décès, elle a été donc hospitalisée. J'étais absente. C'est l'hôpital qui m'a prévenue, absolument pas la maison de retraite. L'hôpital m'a prévenue, donc je suis revenue très vite. Maman est décédée le lendemain matin. En revanche, dans la journée, Orpea a trouvé très facilement mon numéro de téléphone pour m'informer qu'il fallait que la chambre soit vidée le plus vite possible, le soir de préférence. C'était un vendredi, donc ça leur permettait le week-end de récupérer la chambre pour accueillir quelqu'un dès le lundi. Voilà. Et ma belle-mère est décédée la même année. Son EHPAD a envoyé un mot de condoléance, a envoyé un très beau bouquet chez nous. Pour maman, il n'y a rien mieux. Elle a quand même passé 3 ans dans cet établissement qui voyait arriver un nouveau directeur ou directrice tous les 6 mois. Mmh. Et pour conclure, je voulais simplement dire que le personnel que j'ai rencontré, lui, a toujours été sympathique. Je vais dire, sans être péjorative, le petit personnel. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Caroline, pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Annie Devivier, là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef d'âgevillage.com. Vous avez écrit notamment « Vieillir debout, il relève le défi », le label Humanitude aux éditions Chroniques Sociales. C'était là.
Il sort là.
Voilà, il sort là.
Il sort en librairie.
Il vient de sortir, 6 janvier 2022, de ce que j'ai moi. Pascal Chambert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. L'un comme l'autre, en fait, ce qui est terrible, c'est que on l'a déjà eu cette conversation et on l'a eu ensemble ici et au même endroit en fait. Est-ce qu'on dit que à certains égards public privé même combat? Est-ce qu'on fait une vraie distinction entre les EHPAD publics et les EHPAD privés? Comment on fait, Pascal Chambert?
Non, il n'y a pas de sur l'essentiel de distinction à faire. Il y a d'excellents établissements publics, d'excellents établissements privés, de mauvais établissements publics, de mauvais établissements privés. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que même dans ceux que j'appelle les excellents établissements, on est, comme dans les services à domicile, où il y en a de mauvais et d'excellents, on est sur un fond de maltraitance systémique et sociétale. C'est-à-dire que même dans les meilleurs établissements, il n'y a pas les moyens qu'il faudrait pour accompagner les personnes âgées à la hauteur de ce qu'on est raisonnablement en situation d'attendre dans un pays riche comme la France au début du XXIe siècle. Et si vous voulez, la base de toute cette difficulté, c'est l'âgisme, c'est la discrimination par l'âge. C'est-à-dire que dans notre société, plus personne aujourd'hui ne peut dire que les besoins des femmes, chère Fabienne Sintès, sont inférieurs aux besoins des hommes. Mmh. Personne ne peut dire, sauf à être condamné, que les besoins des gens de couleur sont inférieurs aux besoins des blancs. Sauf que c'est pas un problème de dire qu'une personne âgée, comme le dit une humoriste, quand on est vieille, tant qu'on est propre, c'est déjà bien. Mmh. Et ben ça, c'est pas un problème de dire qu'une personne âgée, au fond, ce qu'il faut, c'est qu'elle ait à manger, qu'elle soit propre et qu'il lui arrive rien de grave. Eh bien non. Non, les personnes âgées, quel que soit leur âge, ont les mêmes attentes, les mêmes désirs et les mêmes besoins que l'ensemble des Français. Et donc, non, ça n'est pas acceptable dans notre pays que par manque de professionnels, on fasse manger trop vite une personne âgée, qu'on ne lui propose pas des activités de loisirs dans l'après-midi et qu'on ne lui donne pas une douche chaque jour.
Annie de Vivy, moi ce qui me frappe, c'est que j'entends ce que nous dit Pascal Chanvert pour ce qui est des établissements publics, et Dieu sait qu'on en a parlé effectivement précédemment sur le manque de moyens, le manque de personnel, etc. Est-ce qu'on peut faire le même genre de constat dans le privé, où théoriquement, là pour le coup, l'argent est là, et est-ce que le manque de personnel, on peut dire que c'est un choix pour certains de ces établissements privés. Mais en termes de personnel, là où c'est intéressant, et c'est ce qu'on a découvert à l'occasion de la sortie de ce livre, c'est que en gros, malgré des moyens supplémentaires, c'est la même chose. Il y en a même moins, en fait, dans les établissements privés.
En fait, tout dépend des négociations que les établissements ont avec les autorités de l'État. Les moyens liés aux soins sont accordés en fonction du degré de besoin d'aide des personnes accueillies. Donc ça se transforme dans des systèmes de points qui s'appellent le GMP, le gire moyen pondéré, le pathos moyen pondéré, et tous ces points-là se mélangent et vous obtenez un forfait soins. Mmh. Et c'est ce forfait-là qui vous donne l'autorisation d'embaucher des salariés du domaine du privé, du domaine de la santé. Donc c'est vrai que c'est incompréhensible, mais vraiment incompréhensible de se dire que pour des 3, 4, 5, même beaucoup plus de milliers d'euros par mois, on n'ait pas accès à plus de personnel de santé. Ça paraît incompréhensible. Or, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est structuré comme ça. Juridiquement, c'est comme ça que c'est structuré. Et donc, ça pose des gros problèmes.
C'est structuré comme ça veut dire que même s'ils en voulaient plus, ils ne pourraient pas en avoir plus, c'est ça que vous dites ?
Ils peuvent investir dans des salariés d'autres catégories professionnelles. Sur le domaine de la santé, c'est peut-être encore possible, mais en tout cas, c'est encadré juridiquement. C'est-à-dire, vous avez un encadrement et vous avez des comptes à rendre. Et l'autre souci que nous on voit et qui est complémentaire à ce que dit Pascal Chanvert, c'est que le degré de professionnalisme requis pour accompagner les situations qu'accueillent les établissements aujourd'hui, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que croire qu'on va accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 60, 80, 100 personnes qui ont des troubles, qui ont plusieurs pathologies, etc., sans avoir des formations suffisantes et des outillages suffisants, avec un niveau de qualité suffisant et des contrôles suffisants, ça, c'est pas logique.
Et là aussi, vous me parlez privé-public.
Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, tout le monde est logé à la même enseigne.
Voici Xi'an qui est avec nous. J'espère que je prononce bien votre prénom. Xi'an. Ah, pardon.
Xi'an.
Parfait. Xi'an, on vous écoute. Soyez la bienvenue.
Merci pour la qualité de vos émissions. Alors, je suis infirmière dans un EHPAD à but très, très lucratif, j'ajoute cette mention. Et je suis aussi déléguée du personnel CGT. Donc, dans mon établissement, un petit groupe de salariés, nous sommes en grève depuis 24 jours, donc bien avant la sortie de ce livre. Et ça a été une déflagration pour nous. Hier, on était sur notre lieu de grève, un petit trottoir à Neuville-sur-Oise, dans une petite banlieue chic près de Cergy-Pontoise. Donc on était sur ce petit trottoir, il faisait très 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 froid autour de notre bras zéro, et on a mis la radio France Inter, c'était l'émission Libri, et on a entendu les témoignages de ce journaliste. Et ça nous a fait un coup, vraiment un coup à la tête. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos revendications qu'on pensait être uniquement liées à notre établissement étaient en fait des revendications presque nationales. Parce que ce qu'on demande, nous, hormis l'aspect de revalorisation salariale, mais qui n'est absolument pas prioritaire, c'est qu'on nous traite bien et c'est qu'on nous donne des moyens. et ce qu'on puisse travailler convenablement pour prendre en charge nos résidents convenablement, et on n'en pas mieux, on est managé de manière toxique, on nous contrôle tout le temps, on a le droit de rien faire, on est tout le temps sur la sellette. Moi je suis déléguée du personnel, j'ai été mise à pied dans la même année 2 fois en vue d'un licenciement, j'ai encore un recours au ministère parce que rien ne doit filtrer, rien ne doit sortir de l'établissement. Donc avec ce groupe d'infirmières, ce groupe de soignantes, on a dit, on nous a tout retiré, on nous a tout enlevé, mais il nous reste quoi? Un tout petit peu de dignité. Et c'est pour ça que depuis 24 jours, nous sommes sur le trottoir. Et ce livre, les Fossoyeurs, eh ben, il met en lumière un problème systémique, les dotations de l'État qui sont données à des établissements très, 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 très riches, parce que moi, c'est un tout petit groupe qui s'appelle Epinomis, mais qui est très lucratif. Et en fait, ces établissements, ils prennent de l'argent d'État et ils ne rendent pas compte. Ils ne rendent pas compte. Et nous, les petits, ceux qui sont sur le trottoir, on n'a plus personne pour nous défendre. Mmh. L'inspection du travail nous accompagne depuis 1 an. Mais il faut le maximum dans le cadre réglementaire qu'ils ont et avec les moyens qu'ils ont.
Merci beaucoup, Chiane, vraiment, pour votre témoignage. Pascal Chanvert, qu'est-ce qui se passe en matière de transparence dans ce genre d'établissement-là? Comment ça se passe, en fait? Parce qu'on a bien vu, là, subitement, en se réveillant, qu'on dit il faut pouvoir visiter ces établissements, voir comment ça se passe, pouvoir en faire des rapports. Jusque-là, ça se passe comment, en fait? Privé comme public?
Écoutez, l'État et les départements décident des budgets de 80% des établissements, c'est-à-dire tous les établissements publics et privés associatifs. Comme l'a dit tout à l'heure Annie de Vivy, pour les établissements commerciaux du type d'Orpea, l'État définit le nombre de professionnels, le budget concernant les professionnels soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Donc, vous voyez bien que toute la profession, du point de vue du nombre de professionnels soignants, elle est limitée. Pour les 80% d'établissements publics et associatifs, ce sont depuis une vingtaine d'années l'État et les départements qui imposent des budgets extrêmement bas et qui imposent des budgets en dessous de ce que l'État lui-même a promis. L'État s'était engagé en 2006 qu'il y ait 8 professionnels pour 10 personnes âgées. On est aujourd'hui à peine à 6 pour 10.
Donc, on est à 6 pour 10, je voudrais rappeler qu'on est à 10 sur 10 en Allemagne, à 12 sur 10 même dans certains pays nordiques.
Mais vous avez parfaitement raison, nous sommes en retard par rapport à tous les pays européens comparables. Et donc, vous voyez que même à 8 pour 10, on serait en retard encore par rapport à un certain nombre de pays voisins. Mais nous, ce qu'on demande, c'est le 8 pour 10 que l'État avait annoncé pour 2012, c'est-à-dire il y a 10 ans. Bon. Donc, l'État et les départements qui ne donnent pas les moyens de fonctionner aux établissements, et c'est pareil dans les services à domicile, parce que vous invitiez tout à l'heure à un grand inventaire, mais le grand inventaire, il ne concerne pas que les établissements, il concerne aussi les services à domicile, dont on sait qu'ils sont en grande souffrance, et chez lesquels les salariés sont en grande souffrance, et donc les personnes âgées à domicile ne sont pas non plus bien accompagnées. L'État et les départements qui organisent la sous-dotation des établissements, qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent contrôler dans les établissements? Bah, ils viennent contrôler que les établissements et les services à domicile ne font pas ce que les Français seraient en état d'attendre. Bah, du coup, il y a un moment, ils viennent plus. Ou quand ils viennent nous donner des leçons, faites ceci, faites cela, passez plus de temps pour les douches, faites plus souvent des douches, passez plus de temps avec les personnes âgées quand vous leur donnez à manger, bah, les directeurs leur disent très bien, créez 3, 4, 10 postes. Et là, on nous dit non. Une dernière chose, parce que c'est important. Un jour, une responsable d'un département a dit à l'un des adhérents de l'ADEPA, vous gardez vos histoires de qualité pour vos colloques de l'ADEPA. Ici, on parle de choses sérieuses, c'est-à-dire de finances. Et c'est ça que nous, en tant que directeur, on a décidé de ne plus garder pour nous.
Et là aussi, on parle de public et de privé.
Ah, mais c'est dans le public et dans le privé, la même chose.
Et vous dites garder pour vous. Moi, j'ai entendu notre auditrice Chiane à l'instant nous parler au contraire d'une espèce de monde du silence. Rien ne doit sortir d'ici, donc on ne dit pas ce qui ne va pas, on ne dit pas ce qu'on voit. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez, Annie de Vivy?
Bah, c'est tellement, enfin, c'est une revendication réelle des établissements aujourd'hui d'ouvrir. Et d'ailleurs, c'est un des principes du label Humanitude, du label de bien-traitance, que les établissements eux-mêmes ont voulu. Comme justement l'État ne mettait pas en place un référentiel opposable qui permette à n'importe quel citoyen de savoir où il met les pieds dans une structure à 2000 jusqu'à 12 000 euros par mois, on n'a pas de repère. Donc les établissements eux-mêmes, publics, privés, associatifs, on s'est mis autour d'une table et on a rédigé un référentiel d'un label qui s'appelle le label Humanitude et qui met dans ses principes l'ouverture. Si vous n'êtes pas transparent, si vous n'êtes pas ouvert, si vous ne permettez pas aux uns et aux autres de venir, si vous n'êtes pas évalué régulièrement, comment voulez-vous vous en sortir ? Vous accompagnez des situations humaines les plus difficiles au monde. Il faut que vous-même vous grandissiez, mais il faut que vous puissiez être évalué. Et les établissements eux-mêmes l'ont souhaité.
Mais alors, évalué par qui, du coup ? Est-ce qu'on fait rentrer ? Là, c'est le cas par exemple pour Orpea, qui a décidé, alors qui est en train d'essayer de devancer l'appel, mais qui a décidé de faire entrer deux cabinets indépendants qui vont faire une sorte d'audit dans une marche courante. Qui sait qui s'occupe de ça? Qui alors, fait avant, ces audits? Et surtout, dans un monde idéal, à quelle fréquence?
Le monde idéal, c'est ce qui normalement devrait sortir, qui est bloqué par les systèmes. La loi grand âge n'est pas sortie.
On est d'accord.
On n'a pas eu d'outils législatifs permettant de vraiment lancer une réforme total, d'outiller le système. Normalement, c'est la Haute Autorité de Santé qui va être désignée par ça. C'est la Haute Autorité de Santé qui va sortir un référentiel. Nous, en tout cas, on s'y prépare. Et les établissements qui sont labellisés Humanitude, évidemment, sont bien au fait. Et on va essayer de mettre en place des conformités avec ce que l'État attend. Et c'est sûr, on va le faire. Parce que les établissements en question, ce qu'ils veulent, c'est des outils et de l'outillage pour pouvoir être vérifiés. Là, dans le cadre de la Haute Autorité de Santé qui viendra, ce seront des structures. Nous, dans le cadre du label Humanitude, les établissements s'évaluent directement par des professionnels qui viennent sur place deux jours vérifier que les 500 critères derrière les 5 grands principes sont bien alignés. On rigole pas, quoi, parce qu'on est quand même face à de la situation de vulnérabilité.
Ça veut dire que le nombre de gens qui devraient aller vérifier ces critères, enfin, ça, c'est...
Il faut de l'aide mutuelle. Les établissements ont besoin d'aide pour monter en compétences, pour pouvoir mener toutes ces démarches qualité de fond, mais on a aussi besoin, nous, en tant que société, de se rassurer sur ces établissements-là.
Mettre nos parents,
dans lesquels nos parents rentrent, et puis nous demain.
Parce que, parfois, à juste titre, Pascal Chanvert, et évidemment parfois non, on va rentrer dans une période d'EHPAD bashing, et on n'en est pas sorti.
Faut bâcher les
parfois
EHPAD,
à juste titre, parfois oui, beaucoup moins évidemment.
Faut bâcher les EHPAD. Moi, je dis clairement qu'il faut bâcher les EHPAD. Et bâcher les EHPAD, c'est pas bâcher les directeurs, les médecins, les professionnels. C'est bâcher l'État. C'est l'État qui, il y a une vingtaine d'années, a mis en place un système qui est un système qui dysfonctionne profondément. D'abord, il n'y a pas les moyens, on vient de le dire. Mais deuxième élément, c'est un système hyper sécuritaire qui est basé sur l'obsession sanitaire. Et on a bien vu avec la crise, Covid, que ce système, il était profondément liberticide. Quand vous pensez qu'il y a des gens, des personnes âgées, qui n'étaient pas touchées par le Covid, qui en 2021, par une circulaire du ministère, n'ont pas pu sortir pendant les 6 derniers mois de 2021, pour certains d'entre eux, ou n'ont pas pu recevoir leur famille parce qu'il y avait un ou deux personnes positives dans l'établissement. Mais on dit les directeurs ferment trop les établissements. Mais en l'espèce, ce ne sont pas les directeurs, c'est l'État. C'est le ministère qui a mis en place cette circulaire. Nous avons demandé à de nombreuses reprises à l'État de retirer cette circulaire liberticide. Elle existe toujours.
Et en même temps,
donc,
beaucoup de directeurs ont ouvert...
C'est bien tout un modèle qu'il faut contester.
Et vous avez exactement l'inverse dans d'autres structures qui changent de modèle et qui affirment que l'EHPAD de demain existe et existera. Faut quand même savoir qu'on a, avec l'évolution de la population, là, avec la démographie qui va s'accélérer, il y a quand même 1000 maisons à construire, l'équivalent de 1000 maisons à construire demain.
Des établissements qui ne sont pas des EHPAD, des établissements qui sont des domiciles.
Exact.
C'est ce que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a proposé dans un rapport d'il y a 2 ans, c'est le virage domiciliaire, c'est-à-dire de faire en sorte que on fonctionne dans un établissement comme dans un domicile dans lequel les personnes âgées auraient toute la citoyenneté qu'elles ont à domicile, avec des services à domicile évidemment renforcés, puisque je disais tout à l'heure la grande difficulté du travail dans les services à domicile, avec des services à domicile renforcés et un nombre de professionnels supplémentaires. Et là, on se rapproche de ce qui se passe chez nos voisins européens que vous évoquiez tout à l'heure.
Et on va y revenir. Je voudrais qu'on écoute Georges qui nous attend depuis un bout de temps. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
On vous écoute.
Moi, j'ai été administrateur d'un EHPAD d'un petit village, un EHPAD de 60 lits, pendant plusieurs mandats. Et j'ai pu m'intéresser au sort des EHPAD, et notamment dans un département, les Alpes-Maritimes, dont le président du Conseil Général était Éric Ciotti. Eh bien, dans ce département, il se trouve que la proportion d'établissements privés par rapport aux établissements publics est de très loin la plus élevée de France. Mmh. Ça, c'est la première chose.
Ce qui n'est pas très étonnant en termes de population, mais intéressant.
Mmh. Oui. Mmh. Je parlerai après des établissements privé, si vous m'en laissez le temps. La seconde chose, c'est que l'une des interlocutrices précédentes a parlé des points GIR, GMP, etc. Il se trouve que le département des Alpes-Maritimes est aussi celui qui donne le moins par rapport aux points GIR de toute la France. Mmh. Et c'est un des départements les plus riches, n'est-ce pas ? Bien. Et donc, par rapport aux établissements privés, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des fonds d'investissement, des fonds de pension qui sont acteurs, qui tiennent ces établissements. Oui. D'où le fait qu'il faut que ça rapporte 15-20% et peut-être plus aux actionnaires. D'où un euro par repas, c'est ce qui m'a été rapporté pour certains établissements privés, un euro par repas, et puis les restrictions sur les fournitures, les restrictions en personnel, et puis la pression sur le personnel avec un turnover, excusez-moi de l'anglicisme, un turnover important des personnels.
Et des personnels qui bougent tout le temps, effectivement, qui ne restent pas longtemps, qui ne sont jamais ni j'allais dire pérennisés, en fait. Merci beaucoup, Georges, pour toutes ces remarques. Il a raison, je pense au deuxième point particulièrement, tous ces établissements privés qui sont mondiaux, c'est le cas d'Orpea, ça génère des chiffres d'affaires qui sont extrêmement importants. On est d'accord, tout ça répond aux fonds de pension américains et autres. C'est avec cet argent-là que des retraités de Floride, entre autres, font du golf. On est d'accord. C'est ça aussi que ça veut dire. Cette réalité, c'est celle-là, Annie de Vivi.
Ce qui existe, c'est différents modes de financement des structures, des établissements. Vous avez des groupes d'établissements qui dépendent en effet de fonds internationaux, de fonds de pension. Vous êtes parfois coté en bourse, parfois vous êtes des groupes familiaux, parfois vous avez aussi des investisseurs privés, mais personnels, qui continuent de déployer leur stratégie. Donc selon la stratégie du groupe, selon la pression qu'il a vis-à-vis des modes de financement qu'il a choisi ou qu'il a trouvé, vous n'aurez en effet pas les mêmes conséquences dans la gestion des structures. Et voilà. Ça, c'est pas évident à comprendre non plus.
Absolument, parce que j'ai bien compris qu'en termes de personnel, notamment, il y avait un certain nombre de
70%
choses.
70% du coût d'un établissement.
Exactement.
Je veux dire, c'est ça le vrai besoin dans une structure. Alors non, vous avez le bâti, vous avez l'immobilier, vous avez la gestion, et puis vous avez les frais liés à l'ensemble de l'accompagnement.
Mais c'est ce que j'allais dire, j'ai bien compris qu'en termes de personnel, il y avait un certain nombre de choses qui étaient de toute façon actés et codifiés, mais en revanche derrière, pardon de le dire comme ça, c'est épouvantable, on peut se faire de la marge sur autre chose. On est bien d'accord, sur les repas potentiellement, sur le matériel potentiellement, ça existe ça, Pascal Chanvert, non ?
Non, mais qu'il y ait des choses à interroger dans le fonctionnement de certains établissements commerciaux. Si ce qui est indiqué dans le livre est exact, et que dans des établissements où on paye 400 euros par jour, il y a 5 euros pour la nourriture, ça c'est des choses qu'il faut sans doute examiner. Et il y a sans doute ce que dit ce monsieur, il y a peut-être des choses à voir. Mais je voudrais qu'on ne confonde pas l'essentiel et l'accessoire. Ce ne sont pas les groupes privés commerciaux, y compris appartenant à des fonds de pension américains, qui sont responsables de la situation de 80% des établissements publics et associatifs et des services à domicile qui se débattent dans le manque de moyens. Il y a des établissements commerciaux, ils sont sans doute les révélateurs du dysfonctionnement du système. Mais ce n'est pas les groupes privés commerciaux qui sont à l'origine des dysfonctionnements du système. Ne nous trompons pas d'objectif, parce que sinon on se trompera dans les solutions à apporter. L'objectif, c'est pas d'embêter les groupes commerciaux, l'objectif, c'est de doter l'ensemble des établissements, et notamment les associatifs et les publics, des moyens de fonctionner.
Oui, mais pas que. Il y a besoin aussi de clarifier le cadre qualité, de clarifier le référentiel qualité. Il y a
une fois qu'on aura les moyens, Annie Devilly, une fois que les moyens seront donnés, que l'État tiendra sa parole, et qu'il y aura dans les services à domicile des tarifications à 30 euros de l'heure, et 8 professionnels pour 10 dans les établissements pour personnes âgées, alors à ce moment-là, oui, on pourra être contrôlé pour savoir qu'est-ce qu'on fait des moyens légitimes qui sont donnés aux établissements, aux services à domicile. Tant qu'on n'est pas dans cette situation,
on peut faire des choses simultanées, Pascal Chambert. On ne peut pas faire des choses simultanées.
Mais ça fait 10 ans qu'on y bosse là-dessus, on voit bien.
Non, mais ça, on peut le faire. Et ça, comme ça a été dit, ce sont les établissements eux-mêmes qui se sont lancés avec humanitude dans ces démarches de qualité. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une situation aujourd'hui où les parlementaires se demandent s'il faut accroître les contrôles, ce que je dis aux parlementaires, c'est vous ferez des contrôles le jour où vous aurez voté les lois qui permettent qu'il y ait les moyens supplémentaires pour fonctionner correctement. C'est ça l'essentiel.
En même temps, faire un contrôle, si on se rend compte qu'une personne âgée est maltraitée, c'est bien de l'avoir fait, y compris avant qu'on soit...
Il y a des maltraitances individuelles, je suis d'accord avec vous.
Juste une dernière chose avant de revenir au standard. Notre auditeur nous disait, en gros, nous expliquait que les fameux points GIR commençaient à discrétion du département aussi, c'est
oui.
ça ?
Oui, alors ça c'est un autre délire de notre pays. C'est que selon que vous habitez en Alsace, alors très franchement, il faut en ce moment habiter plutôt vers l'Est, et encore pas partout, dans tous les départements. Bref, en fait, c'est hallucinant. Sinon, parce que vous êtes un client, vous êtes une famille, vous êtes aidant, et vous avez absolument besoin que votre proche soit accueilli dans un établissement formé, compétent, qui respecte les qualités, etc. Ben cet établissement-là, selon son territoire, il n'aura pas la même dotation de soins, alors qu'il accueille la même catégorisation de personnes âgées. C'est du délire.
Serge,
vive une loi grand âge.
Oui, comme vous dites, qui pour l'instant est passé la trappe. Serge, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Serge.
Alors moi, je viens d'entendre le monsieur qui vient de dire « on va pas endetter les capitalistes ». Enfin, excusez-moi, mais les mots-clés, c'est bienveillance, soins aux personnes âgées, etc. 600 000 personnes en EHPAD, 1 euro par jour d'économiser, ça fait 600 000 euros, ça fait 18 millions par mois, etc. etc. Pourquoi on n'interdit pas par la loi que les établissements qui s'occupent des vieillards ne puissent pas entrer en bourse? C'est parce que c'est de la prédation pure et simple. Le capitalisme capte la valeur, il n'en produit pas. Donc, on le sait, ça. Pourquoi on ne se bagarre pas pour que les fameux députés qui veulent, les parlementaires qui veulent aller visiter les EHPAD, votent d'abord une loi qui interdit cette obscénité qui fait que les voyous de qui dirigent les EHPAD puissent entrer en bourse. C'est le seul motif pour lequel il faut de la rentabilité. Enlever la rentabilité, vous verrez que vous obtiendrez des résultats satisfaisants.
Serge n'est pas tout seul, Pascal Chambert, avec cette remarque. On a Dietmar, je crois. Si je trouve mes lunettes, peut-être que je ne dirai pas son nom n'importe comment. Si, Dietmar, voilà, qui dit « Une personne de mon entourage avait de l'argent à placer, son banquier lui a fait placer dans un EHPAD et je trouve ça incroyable qu'on fasse du capital sur les EHPAD. Pourquoi avoir confié nos anciens, nous dit François, à des groupes capitalistes cotés en bourse? Il faut nationaliser les accueils des personnes âgées. » Il y a quelque chose, on a entendu ce que vous nous avez dit sur le fait que à certains égards, public-privé, même combat pour ce qui est de la prise en charge vraiment des personnes âgées. Alors on peut comprendre l'effet que ça fait sur nos auditeurs. Si demain, faisons de la politique fiction, si demain on fermait les établissements privés, le manque à gagner de combien ? On perd combien de lits, très concrètement ?
On perd 20% des personnes âgées de notre pays qui n'ont plus d'établissement. Mais attendez, il faut être très clair. Cette question de nationaliser les établissements privés, elle est depuis particulièrement quelques jours dans le débat public.
Ah ouais.
Moi, je respecte l'ensemble des opinions démocratiques dans ce pays. Je comprends que des gens demandent la nationalisation des établissements privés. Et même si je ne partage pas cette analyse, je la respecte. respecte. Je dis juste à ceux qui proposent cela que si demain on nationalise tous les établissements privés, commerciaux, si on ne met pas de moyens pour aider les 80% d'établissements publics et associatifs et les 75% de services à domicile publics et associatifs, ça ne servira à rien. Moi, je veux bien qu'on embête les établissements privés, mais je pense que l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est de régler la situation pour 80% des établissements, pour 75% des services à domicile, donc pour la quasi-totalité des personnes âgées qui sont aidées à domicile ou en établissement. Et puis, je crois que la question des établissements privés, elle doit se faire, une fois qu'il y aura les moyens partout, elle doit se faire par de la régulation, du style, quand on paye 400 euros la journée, on peut attendre à avoir plus de 5 euros dans son assiette. Si tant est que ces chiffres qui sont annoncés dans le livre soient avérés.
Pardon, allez-y, Annie de Vivi.
On peut prendre un rapport avec les crèches, par exemple, avec l'environnement de la petite enfance. L'État fixe les règles, l'État fixe des dotations de personnel.
Et des ratios.
Et des ratios de personnel obligatoires au regard du nombre d'enfants accueillis. Et là-dessus, il fixe des repères qualité obligatoires. Si vous ne les maintenez pas, votre crèche ferme, et qu'elle soit publique, privée ou associative. Pourquoi on ne fait pas la même chose dans notre secteur où on accueille des situations de vulnérabilité importante? On a besoin d'avoir des repères qualité clairs. Et nous, franchement, je trouve ça dingue que dans ce secteur qui accueille 7700 établissements, on n'est qu'un tout petit malheureux label aujourd'hui. J'espère qu'on en aura d'autres.
Mais en tout cas, il nous ramène excellente question d'Annie de Vivi. Pourquoi ce qu'on a fait dans le secteur de la petite enfance, on ne le sait pas, on le fait pas dans le secteur du grand âge?
C'est ce que vous disiez, effectivement.
C'est l'agisme, c'est-à-dire que les besoins des enfants paraissent plus importants que les besoins des personnes âgées. Et la conséquence de l'agisme, c'est qu'on donne pas au secteur les moyens de fonctionner.
On écoute Daniel et on reprend bien sûr cette conversation. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oh ben moi, là vous m'avez bien brouillé les cartes, parce que j'étais bien, bien clair au début, mais là, après toutes les belles paroles de M. Chanvert, oui ben moi ça fait 22 ans cette année que je bosse dans le public, donc là non, le public, moi j'ai pas de choses à dire, il n'y a pas toujours des directeurs bien compétents, mais bon, on est remonté une fois à la DAS pour demander un audit, l'audit est arrivé, après on nous a tapé sur les doigts, et puis ça continue, ils sont au petit bonhomme de chemin, mais bon, après, bon bah, on retrouve toujours de la maltraitance sur les personnes, par l'infantilisation, comme je dis toujours, en les tutoiant, ils appellent par leur prénom, bon, il y a plein de choses qui ne se font pas, mais moi je suis de la vieille école, et donc... bientôt à la retraite, la bienveillance avant tout, je dirais, mais bon, avec des moyens qui ne nous obligent pas à passer, comme on a fait là, se protéger du Covid, les personnes en 12 heures par jour, le personnel, donc ils prennent tous la fuite, les plus fragiles, et puis après, ils nous restent les jus pour pleurer. Donc, et c'est les résidents à nouveau qui prennent, parce que bon, on a des intérimaires à tour de bras, mais bon, c'est pas non plus une vie en soi, mais bon. Après, on est noté par l'ARS, on a perdu personne, on était très bien noté, on a perdu personne à cause du Covid. Il a fallu s'enfermer, ça a été terrible. Deux ans de port du masque, les familles qui n'ont pas pu venir pendant une éternité. Là, à nouveau, les familles ne viennent plus, donc on nous envoie des mails vraiment de colère terrible, on les comprend.
Daniel, merci beaucoup. Moi, ce que j'entends dans le témoignage de Daniel, Annie de Vivi, et c'est un peu ce que vous disiez au début de cette émission, au fond, le modèle n'a pas évolué du tout. On est resté sur une espèce de vieux schéma, de vieux modèle, alors que les personnes dépendantes, elles, ont énormément changé, et que même d'ailleurs, les populations qu'on trouve aujourd'hui, les résidents dans les EHPAD, ont beaucoup changé aussi, parce qu'on reste aujourd'hui de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps chez soi.
Et on va continuer d'être chez soi dans ces
heureusement... Et heureusement. Et donc, du coup, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les établissements, dans les EHPAD, c'est évidemment des résidents qui ont besoin d'aide, beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'aide, etc. Mais on a l'impression que le modèle est resté exactement le même depuis très longtemps, en fait.
Oui, ce qui est rassurant quand même, c'est de se dire que moi, ce qui me rassure personnellement, parce que j'ai une pensée pour ma maman qui vit dans un établissement, j'ai vraiment une grande énergie qui m'est donnée par les établissements eux-mêmes. C'est-à-dire que on est quand même face à des établissements et à des équipes qui reviennent, qui viennent, qui tiennent, mais elles ne veulent plus être complices de situations qui les révulsent parce que leurs valeurs sont bafouées par la réalité. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles se remettent en question, elles mettent sur la table leurs compétences, elles ajustent et elles sont capables de grandir au point d'accueillir des personnes qui ont des troubles particuliers, qui ont des polypathologies et à ce moment-là, leur structure devient une ressource du territoire. Mmh. On est capable aujourd'hui de transformer les établissements en établissement ressource, en établissement qui va être capable d'être la ressource de santé du territoire, en télésanté, télémédecine, en accueil temporaire, en accueil de jour pour soulager les proches aidants, etc. On est capable de transformer le système. Mais pour ça, il faut accepter d'y mettre de l'énergie, d'accepter de regarder que je suis désolée, mais on a besoin de renforcer, et tous les rapports l'ont dit depuis 20 ans, on a besoin de mettre une dizaine de milliards d'euros sur la table dans le secteur de la santé, de l'aide à l'autonomie des personnes âgées. Et alors, c'est rentable pour nous aujourd'hui, pour nos proches aujourd'hui et pour nous demain, avec des emplois fiers de ce qu'ils font. C'est ça qu'ils veulent, les professionnels.
Il nous reste seulement 2 minutes et je veux pas qu'on laisse Christophe au milieu du chemin qui nous attend depuis longtemps. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Écoutez, à partir de mon témoignage, j'étais tuteur d'une tante atteinte de la maladie d'Alzheimer qu'on a installée chez Orpea à Saint-Rémy-les-Chevreuse. Au bout de quelques temps, on nous a demandé de prendre une aide à domicile pour l'aider et lui consacrer du temps pour déjeuner et pour faire quelques balades l'après-midi. Ça a duré plusieurs années. On ne venait pas la semaine, en fait, on travaille, on ne venait pas la semaine, et il n'y avait pas d'anomalie notable. Sauf qu'au bout de 2 ans, il y a quelqu'un qui s'est présenté la semaine et qui a vu que la personne aide à domicile n'était pas là, à l'heure du déjeuner. La semaine d'après, on a reconduit la visite et on s'est rendu compte de la même chose, et c'est moi qui suis intervenu la troisième fois pour me rendre compte que la personne de midi n'était pas ma tante à déjeuner. Ouais. Elle était laissée avec sa bave, la nourriture qui coulait sur elle pendant 1 heure, et j'ai attendu la fin de l'heure de travail normalement de cette aide à domicile pour aller voir la directrice d'Orpea. Il y a eu un mouvement de panique et puis on m'a prétexté une diarrhée de l'aide à domicile. Et en fait, ils travaillent dans d'autres pavillons sous couvert d'un salaire payé par un des occupants en plus du loyer payé. Quoi.
Pardon de vous presser, Christophe. Il nous reste vraiment très peu de temps. Moi, ce que je voudrais demander à nos invités après ce genre de témoignage, c'est est-ce qu'on peut dire quand même que grâce à ce livre, grâce au débat que ça provoque derrière, il peut y avoir un avant et un après ? Et qu'on peut là avancer beaucoup plus vite, très rapidement, l'un comme l'autre.
En un mot, l'heure est grave, et le président de la République, le président Macron, doit prendre la parole sur ces sujets, et notamment dire combien l'agisme, qui a été très bien décrit dans le rapport de la députée Audrey Dufeu, doit être condamné dans notre société.
Annie Delevy, très très vite, en une seconde.
Et il ne faut absolument pas désespérer du fait que demain, on pourra vieillir debout dans des beaux établissements EHPAD.
Et merci pour cette conclusion, merci à tous, portez-vous bien.